En discutant pendant la pause, on a donné une bonne idée que je vous transmets, qui vient aussi du conseil de Lamo, qui est la nonne, donc la moniale qui dirige Introduction au bouddhisme en ce moment. Conseil, elle disait aux gens qui, pour, si vous visualisez 35 Bouddhas, c'est trop difficile, ça vous paraît impossible. Elle donnait le conseil de visualiser un Bouddha par jour, par exemple. C'est-à-dire, sur chaque jour, vous vous concentrez sur un Bouddha, vous lisez ses qualités dans le manuel sur les 35 Bouddhas, et vous vous concentrez sur ses qualités, et le lendemain, vous passez au Bouddha suivant, et voilà, vous pouvez donc ainsi avoir vraiment une bonne compréhension de la pratique et la compréhension des qualités de ce Bouddha-là, et de mieux ressentir la pratique. C'est Lamo, oui, Françoise, oui, exactement. C'est son ancien nom. Lamo. Lamo. Voilà. Donc, merci à elle pour cette transmission. Ça vous permet de vous concentrer sur un Bouddha par jour, ce qui est assez rapide et aussi. Permet d'approfondir. Bien, donc, on continue dans la pratique donc, quotidienne du Bouddha Shakyamuni. On en est arrivé donc, à ce qu'on appelle la prière en sept branches. Alors, je vous fais remarquer qu'on est toujours en train de respecter les pratiques préparatoires, les six pratiques traditionnelles qu'on appelle le Dzogchen. Première, nettoyer le lieu. Deuxième, autel et offrande, prosternation aux 35 Bouddhas. Troisième, s'asseoir en posture et prendre la posture en sept points. Donc on a fait. Quatrième point, c'est visualiser les objets de refuge, prendre refuge et bodhicitta. Donc ce qu'on vient de faire avec les Bouddhas. Hein. On visualise le Bouddha, on prend refuge et bodhicitta. Et la cinquième des six, il ne restera plus qu'une après, c'est la prière à sept branches et le mandala. Donc, on en est dans la prière en sept branches et le mandala. Oui. Les six pratiques préparatoires, je vais vous donner la liste, comme ça vous l'aurez. Six pratiques préliminaires ou préparatoires. C'est Dzogchen en tibétain. Donc, première pratique, nettoyer le lieu de pratique. Deuxième, l'autel et les offrandes. Avoir un autel et y mettre des offrandes. On peut inclure aussi les prosternations aussi. Une fois qu'on a fait les offrandes, on se prosterne. Donc, ça fait partie du rituel de l'autel, des offrandes et prosternations. Troisième, prendre la posture assise, s'asseoir sur son coussin et prendre la posture de méditation la posture en sept points pour méditer. Une fois que vous avez pris cette posture, vous visualisez les objets de refuge. On dit les objets de refuge parce que ça peut être le Bouddha, mais on peut le faire de manière beaucoup plus extensive en visualisant de nombreux autres objets de refuge qui font partie du champ d'accumulation. Mais là, on va simplifier, juste visualiser le Bouddha, Shakyamuni, et passer quelques instants donc, sur cette visualisation, concentration. On se concentre sur ce qu'on visualise. Après, on prend refuge et bodhicitta. Ça, c'est la quatrième branche. La quatrième pratique. Donc, visualiser les objets de refuge. Prendre refuge et bodhicitta. La cinquième, c'est la prière à sept branches et le mandala. La prière à sept branches et le mandala. Oui, oui. Le livre doré. Doré, doré. Peut-être c'est aussi sur le livre argenté, je ne sais pas. Je le connais moins bien. Et la sixième, c'est les requêtes. Adresser des requêtes. Adresser une requête au Bouddha. après le mandala, on adresse une petite requête, une petite prière. Ça, ce sont les 6 pratiques préparatoires. Ça veut dire qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore entré dans la méditation du lamrim. Mais ça va vite. Hein. Nettoyer le lieu, le fin, la posture assise, ça ne sert pas. C'est, hein. Ça, c'est dans la pratique quotidienne donc, du Bouddha Shakyamuni. Et tout ça, c'est inclus hein, dedans. Hein. C'est juste le format traditionnel qu'on retrouve à peu près dans toutes les pratiques. Ça, hein. Toutes les pratiques que vous faites, vous allez retrouver plus ou moins ces 6 pratiques préparatoires. Oui. Le micro.
Et du coup, c'est au 4e point où on peut faire ou la visualisation du Bouddha
Shakyamuni,
ou faire la méthode qui change, ou faire les prosternations entre saint Bouddha.
Non. Ça, c'est au 2e point, lorsque vous avez fait les offrandes.
Du coup, quand on fait les offrandes,
quand vous avez fini de faire les offrandes, vous pouvez faire les prosternations aux 35 Bouddhas, ou à un seul Bouddha, si vous voulez. Vous pouvez faire la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur, ou vous pouvez faire la pratique quotidienne du Bouddha Shakyamuni.
Et du coup,
c'est au niveau de la posture. Quand vous prenez la posture assise, après avoir fait les prosternations, vous vous asseyez, et là, vous faites la pratique que vous voulez, la pratique quotidienne que vous voulez.
Ok.
Non ? Non, c'est pas tout à fait clair encore. Vas-y.
C'est que, alors, on fait l'autel, les offrandes, les prosternations. Mmh. On fait la posture assise.
Après, en quatrième, c'est le troisième, oui.
Ça, c'est le troisième. Mmh. Et du coup, c'est là qu'on
choisit
la méthode.
C'est là que tu choisis la méthode.
Ok, donc c'est le 4e point qu'on peut changer. Visualiser le Bouddha.
Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux. Ok. Oui, si tu veux, oui.
Ouais. Ou c'est ouais, visualiser ouais, le Bouddha ou d'autres.
Non, ok, quatrième. Ok, d'accord. C'est à ce niveau-là, oui. Tu peux mettre ce que tu veux là. Oui.
D'accord, merci. Mmh.
Très bien. Vous utilisez la méthode que vous voulez là.
Ça peut s'arrêter au troisième si on fait les 35 Bouddhas.
Si vous faites les 35 Bouddhas.
Ça s'arrête là.
Comment ça s'arrête là? Qu'est-ce qui s'arrête là? La pratique s'arrête là ?
Parce que si on fait...
Ah non, les 35 Bouddhas...
Si on fait nettoyer le lieu, faire les offrandes et l'autel, ensuite on fait les 35 Bouddhas,
oui.
Et c'est bon, on s'arrête.
Vous arrêtez, c'est-à-dire ?
Oh, ben après, on va qu'à nos occupations.
Vous vos occupations.
Mais parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les 35 Bouddhas en soi, c'est...
Parce que ça comprend. Il faudrait quand même faire une petite méditation sur le lamrim, quand même. Je pense que ça serait pas mal, quand même. Après, mais vous pouvez l'intégrer un moment après avoir fait les prosternations au Bouddha, hein, juste avant d'absorber. Là, vous pouvez faire une petite... dire une prière de lamrim, par exemple. Si vous voulez arrêter votre pratique à ce moment-là. Vous pouvez faire ça. Donc, à ce moment-là, au troisième point, lorsque vous faites la posture assise, là, à ce moment-là, vous faites une petite méditation de l'amrim.
D'accord, merci.
D'autres questions sur Zoom ? Oui, merci.
Oui, Christian, bonjour.
Oui, bonjour.
Tu parlais de méditation de calme mental de Shiné.
Oui.
On va la faire un jour ou quand est-ce qu'il faut l'inclure dans cette pratique quotidienne ?
Eh bien là, au moment de la posture assise, quand vous visualisez le Bouddha Shakyamuni, vous pouvez pratiquer Shiné à ce moment-là.
D'accord. Hein ? Est-ce qu'on va le faire parce qu'on ne l'a jamais vraiment fait, Shiné ?
Non, ben non. Si vous voulez vraiment, si vous êtes intéressé par la pratique de Shiné, vous pouvez faire une petite retraite d'une semaine avec Geshe Loden. Il organise des retraites de Shiné, soit une semaine, soit 10 jours, ça varie. Il en fait 2, 3 par an à peu près. Il va y en avoir une en novembre, il y en aura une autre en avril-mai. Et en général, Il y en a une autre au mois d'août, pas toujours au mois d'août. Ça varie. Cette année, non, il n'y en a eu que deux ou trois. C'est pas forcément avancé, non. C'est une pratique de motivation. Il faut demander à Geshe-lo Dan. Il te connaît un petit peu, tu lui demandes. C'est une vous devez au moins faire les quatre premiers jours. Si c'est sur une semaine, vous ne pouvez pas arrêter avant quatre jours. Hein. C'est la pratique comme ça. Hein. Si, donc, vous êtes obligé quand même de rester au moins quatre jours. C'est une pratique assez difficile au niveau physique, je dirais, et mental aussi, parce qu'il faut garder cette posture pendant un certain temps et être très stable. Dans ça amène beaucoup de stabilité, mais il faut aussi. On ne peut pas se lever à n'importe quel moment. On ne peut pas même bouger. Quand vous êtes dans la posture pendant 7 minutes, ou je ne sais plus combien, il doit faire, je pense qu'il fait 4 minutes. 4 minutes de peut-être c'est 7 minutes de concentration, 3 minutes de pause, 7 minutes de concentration, 3 minutes de pause. Mais pendant les 7 minutes de concentration, vous ne devez absolument pas bouger. Vous êtes complètement. C'est vraiment une méthode pour développer la concentration. Excellent. La pause n'est pas obligatoire. Si vous êtes bien à votre posture, vous continuez, vous pouvez rester. La pause, c'est pour ceux qui ont des difficultés, qui ont besoin d'une pause. Comme les débutants. Quand on est débutant, on a besoin d'une pause. C'est pour se détendre le dos, si on a mal quelque part. Tout ça. Mais c'est pas une obligation. Et il inclut justement bodhicitta. Quand Geshe-lo Dan, c'est pas qu'une pratique de concentration. Il inclut la méditation du refuge, de la bodhicitta, de la vacuité. Il amène aussi pas mal d'accumulation de mérite et de purification dedans.
Et ensuite, tout ce qui est chenrezi, tara verte, tara blanche, voilà. Ce sont
des pratiques quotidiennes que vous pouvez faire à la place, par exemple, de la visualisation du Bouddha Shakyamuni. Si vous faites les pratiques de Chenrezi ou les pratiques de Tara, vous pouvez les faire à ce moment-là. Vous prenez votre posture assise, vous visualisez, vous prenez refuge, vous développez bodhicitta, vous visualisez la déité que vous pratiquez et les récitations qui vont avec, la récitation du mantra, la récitation des louanges, les offrandes, etc. Vous faites cette pratique à ce moment-là.
D'accord.
Ça devient la pratique principale, ça. C'est la pratique principale. Voilà. Donc là, on est dans une pratique quotidienne qui intègre aussi le lamrim, hein, les points du lamrim. C'est pas dans toutes les pratiques comme des déités, comme par exemple Chenrezi ou Tara, que vous allez retrouver la pratique du lamrim dedans. L'avantage de cette pratique du Bouddha Shakyamuni, c'est que les deux sont intégrés. Vous avez tout dedans. Vous avez tout. C'est un package. Hein. Vous avez tout compris. Vous avez le refuge, vous avez la concentration sur le Bouddha, vous avez le refuge, vous avez la bodhicitta, vous avez la prière à sept branches. Donc, vous purifiez, vous accumulez, vous développez la concentration, vous recevez des bénédictions, vous faites des requêtes. C'est très varié. Il y a beaucoup de choses. Et en même temps, vous méditez sur le lamrim. Donc, il y a tout. Et après, voilà, c'est une pratique qui est bien pour la retraite de l'amrim qu'on fait. C'est le format que j'utilise. Je pourrais en utiliser d'autres. Hein. Je pourrais utiliser une autre méthode. C'est celle que je préfère, c'est celle de la Mazopa. Donc, on est dans le centre de la Mazopa. C'est celle-ci que je pratique, qu'on pratique ensemble. Voilà. Parce qu'il y a tout aussi. Et on peut mettre l'accent tous les jours sur des points différents et tout ça, et sur des points du lamrim différents aussi. Ça permet de vraiment intégrer les choses. Vous voyez comment ça s'agence ? Okay. Donc là, on en est dans la prière à sept branches. Donc c'est pareil. La prière à sept branches, vous allez en trouver des versions longues et des versions plus courtes. Une version très longue de la prière en sept branches, vous allez la trouver, par exemple, dans cette prière d'aspiration noble, royale, là, ce qu'on appelle la prière royale, qui a un petit fascicule aussi qui est sorti, là, où il y a une longue... la Mazopa conseille de lire en fin de journée, par exemple. C'est à la fois une prière à sept branches, et aussi en fin de journée, vous avez des dédicaces. La Mazopa conseillait de faire cette pratique en clôture de journée. Là, je vous en parle parce qu'il y a aussi une prière à sept branches. Dans la pratique de la Matsongkapa aussi, il y a une prière à sept branches. Donc, dans de nombreuses pratiques, Chenrezi, Tara, vous avez une prière à sept branches parce que c'est une pratique très condensée, très courte et qui permet justement l'accumulation de mérite et la purification. Donc ces sept branches, moi, je pense que vous les connaissez quand même, plus ou moins. Donc la première branche, c'est la branche des prosternations. Donc là, vous récitez le... Alors, ça peut être dit en une phrase, hein, comme ici, par exemple, dans votre texte. Il a dit « Je me prosterne avec respect par le corps, la parole et l'esprit. » Donc là, vous ne vous relevez pas. Vous êtes assis sur votre coussin, vous visualisez que vous vous prosternez. Vous pouvez visualiser que tous vos corps que vous avez obtenus dans les vies antérieures se prosternent, par exemple, au moment où vous dites cette phrase. Et que voilà, vous vous prosternez devant tous les Bouddhas. Hein, bon, si vous voulez vous lever, vous pouvez le faire. Hein, rien ne vous l'interdit, bien sûr. Mais c'est pas une obligation. Hein. En fait, c'est un moyen de rendre hommage au Bouddha. Vous rendez hommage au Bouddha. Hein. C'est une forme. On doit joindre les mains parce que bon, c'est un hommage et en même temps ça crée purifie le corps. Hein. C'est une pratique du corps, de la parole et de l'esprit. Hein. Toujours, on retrouve toujours ces éléments. Et on dit que les prosternations c'est le meilleur moyen pour vaincre l'orgueil. Quand on rend hommage à quelqu'un, c'est qu'on se rabaisse quelque part. C'est qu'on reconnaît ses qualités et que les nôtres sont inférieures aux siennes, en général. Et surtout quand on se met comme ça, c'est une inclinaison. Et en plus, si on fait les prosternations physiques, là, on se met par terre. Hein, voilà, on ne peut pas descendre plus bas que terre. Hein, en fait. Et là, on se met au pied du Bouddha. Hein. Donc, si on le fait vraiment sérieusement, avec cet esprit de prosternation, c'est une bonne manière de vaincre l'orgueil. Hein. Donc, c'est une pratique physique, hein, où on inclut le corps, on inclut la parole parce qu'on le dit, hein, et l'esprit, donc en pensant aux qualités du Bouddha. Quand on fait ça, on ne visualise pas simplement le Bouddha. Hein, le Bouddha Shakyamuni, sur un tagat, sinon ça devient un peu limité. On peut penser, comme c'est dit dans la prière royale ici, sur chaque atome, il y a un Bouddha. Sur chaque atome, hein, il y a un Bouddha entouré d'innombrables bodhisattvas. Donc des Bouddhas, il y en a partout. Et vous pouvez... sur chaque atome se trouve autant de Bouddhas qu'il existe de particules, chacun entouré de bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement des victorieux. Voilà, ça c'est l'hommage. Après la prière continue, etc. Donc vous imaginez que dans toutes les directions, dans toutes les molécules de lumière, tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont des Bouddhas. Parce que partout où il y a l'esprit du Bouddha est partout. Hein. Donc partout où il y a l'esprit du Bouddha, il y a le corps du Bouddha aussi. C'est pas pour ça que ça va mieux dans le monde. Ben, encore faut-il se relier au Bouddha. Hein. C'est pas parce que si tu t'y relies pas, tu ne le perçois pas. Il faut avoir le karma de pouvoir le faire. Je sais pas. Ça dépend des jours. Ensuite, on passe à la deuxième branche. Hein, c'est les offrandes. Pareil, on visualise là encore. Donc, on dit la phrase habituelle ou... Je présente, oui, je ne l'ai pas là, il faut que je le retrouve. Attendez, je vais... J'ai oublié de partager sur Zoom, excusez-moi. Je vais partager avec vous. Pendant la pause, j'avais enlevé le... Ah. Attendez, je perdu le texte. Livre de prière, voilà, c'est là. Voilà, je présente des nuées d'offrandes réelles, variées, réelles et imaginées. Donc réelles, imaginées, réelles, c'est celles qui sont sur l'autel. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Non, mais... Le sens des mots. Ah, ok. C'est quel mot ? Muet. Ah, nuée. Ah oui. Des nuées, c'est des nuages ? Oui. Hein, une multitude, c'est une multitude, une myriade. Une myriade.
Oui, j'avais une question là-dessus. On doit souvent visualiser des champs de Bouddha et les offrir, des champs de ceci.
Champs de mérite, champs d'accumulation.
Par des champs, qu'est-ce qu'on visualise par des champs
Un ensemble.
D'accord.
Un ensemble. On appelle ça un champ de mérite. Parce que un champ c'est la traduction littérale du mot tibétain shing, qui veut dire champ aussi, parce que c'est un champ où les mérites, qui permet de faire pousser les mérites. C'est ça l'image, en fait. Hein, c'est un champ que l'on travaille, en fait, qui sert de récolte, qui va amener une récolte. La récolte, c'est l'éveil. Et sur ce champ, donc, les qualités vont pouvoir s'accroître. Donc, ce champ d'accumulation de mérites donc, permet d'accroître les qualités. Ça pousse. C'est garder cette image. C'est vrai que ce n'est pas tout forcément parlant, mais bon. Donc, il y a deux types d'offrandes. Hein, les offrandes ordinaires qui sont sur votre autel. Et il y a les offrandes ordinaires, donc ça peut être son matériel, mais ça peut être aussi les offrandes que l'on visualise dans son esprit. Donc matériellement, sur l'autel, on met des fleurs, on met de l'eau, on met de l'encens, le parfum, etc., ce qu'on a vu hier. Ça peut être aussi toutes sortes d'ornements qu'on peut mettre, des cristaux, par exemple, ici, sur l'autel. Il peut y avoir de la nourriture, des bonbons, toutes sortes de choses. Donc, on parle aussi d'offrandes insurpassables. Il y a des offrandes ordinaires, des offrandes insurpassables. On dirait. Les offrandes insurpassables, on les appelle aussi les offrandes qui sont faites par le Bodhisattva Samantabhadra, qui était réputé pour faire les meilleures offrandes qui soient. C'est-à-dire qu'il arrivait, par le pouvoir de sa concentration, à démultiplier chacune des offrandes, ou à multiplier chacune des offrandes. Et c'est ça qu'on appelle les offrandes insurpassables. C'est les offrandes qui sont faites par les Bouddhas et les Bodhisattvas, qui sont hors du commun. C'est-à-dire que pour le champ de mérite, pour le Bouddha, pour les Bouddhas qui sont partout, ils vont manifester autant d'offrandes que possible. Et ils sont capables aussi de manifester des offrandes aussi pour les êtres qui souffrent, on dit. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est comme des offrandes surnaturelles qu'on ne perçoit pas avec nos yeux. Mais on peut imaginer qu'on est comme le Bodhisattva Samantabhadra et qu'on projette dans l'espace comme ça, comme un feu d'artifice, avec plein d'offrandes adressées de toutes les couleurs, adressées au Bouddha. Faites-vous plaisir, soyez créatifs. voilà. Ensuite, c'est la branche de la confession. Je confesse toutes mes actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Donc, les prosternations, c'est une purification. Les offrandes, c'est une accumulation de mérite. La confession, c'est de nouveau une purification. Donc là, on applique. Ça dépend du temps qu'on a. On peut là encore appliquer les quatre forces d'opposition en pensant donc que l'on purifie des actions négatives bien spécifiques, que l'on regrette, qu'on ressent un certain remords. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? Bon, ça va, on l'a fait hier, toutes les pratiques de confession là, qu'on peut faire. En se rappelant que tant qu'on a du karma négatif, eh bien, c'est difficile d'obtenir des réalisations. et que justement le but de ces purifications, c'est d'éliminer le karma négatif. C'est quelque chose, un aspect de la voie qui est complètement intégré à notre esprit. Donc je vous rappelle les quatre forces d'opposition, c'est le pouvoir du support, le pouvoir du regret, le pouvoir de l'antidote, le pouvoir de la résolution. On appelle ça aussi les quatre R, hein, le refuge, remords, remède et résolution. Donc c'est... voilà. Donc tout dépend bien sûr du regret, hein, sincère. Plus le regret est sincère, plus la purification va avoir lieu, hein, va être efficace. Okay. Donc ça c'est le... Ensuite vous avez « Je me réjouis des vertus de tous les êtres sains et ordinaires ». Donc c'est la branche de la réjouissance qui purifie la jalousie. Qui est un antidote à la jalousie. Et donc, c'est un moyen aussi, c'est une forme d'accumulation de mérite, hein, de se réjouir. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. En général, on s'apitoie plutôt sur son sort. Mais se réjouir de ses actions positives, c'est quelque chose de très fort, qui amène beaucoup de joie, qui amène de la clarté mentale. Et se réjouir aussi des actions positives des autres, justement, pour éliminer la jalousie. Dès qu'on ressent une pointe de jalousie monter dans son esprit, c'est bien à ce moment-là, plutôt que de laisser s'installer cet esprit un peu lourd et négatif, de le couper net, en voyant les qualités de cette personne. Si on est jaloux de quelqu'un, c'est en général parce que cette personne a des qualités. Et on ne veut pas les admettre quelque part. On pense qu'on en a plus ou qu'on ne veut pas admettre qu'elle a des qualités. Bien, il faut transformer son esprit. C'est justement ça, la transformation de l'esprit. C'est inverser la tendance et voir que cette personne, si on est déjà jaloux, c'est qu'elle a beaucoup de qualités. Et on se réjouit de ces qualités. Et on dit que l'effet que ça produit, c'est que ça crée le mérite pour obtenir autant de qualités que cette personne, suivant son niveau, hein, suivant le niveau où elle est. Donc, se réjouir, ça fait partie aussi donc, de l'accumulation de mérite, ouais, je vous l'ai dit. Ah oui, pour l'offrande, oui, j'ai oublié de vous dire, pareil, l'offrande, c'est important, même si on a des offrandes très ordinaires sur l'autel, si c'est des offrandes qui n'ont pas beaucoup de valeur, comme des bols d'eau, tout ça, c'est bien de les visualiser comme du nectar, par exemple, comme quelque chose de très, très, très précieux. Et là, il y a beaucoup d'exemples dans la vie du Bouddha, par exemple, le roi Ashoka, qui est devenu un empereur bouddhiste. Dans une de ses vies antérieures, il était un enfant qui, lors du passage d'un Bouddha, n'avait rien à lui offrir. Il avait vraiment envie de lui offrir quelque chose. Il a pris de la terre ou du sable et il a tenu dans ses mains comme ça. Et il a visualisé ce sable comme étant des pierres précieuses. Ou de l'or, des pierres précieuses, un trésor. Il s'est concentré là-dessus et il a offert ça au Bouddha. Pas comme du sable, mais comme des pierres précieuses. Et ça, ça a créé le mérite pour qu'il soit immensément riche dans sa vie, une de ses vies futures, peut-être la suivante, je ne sais pas. Et il est devenu l'empereur Ashoka qui a construit des stupas, qui avait une fortune considérable et qui a établi des monastères, des temples, des stupas, partout, des colonnes. Si vous allez en Inde, il y a beaucoup de lieux où on représente justement des colonnes d'Ashoka où il avait... établi des communautés bouddhistes et financé tout ça parce que sa fortune était illimitée. Et la cause de cet effet-là, c'est simplement d'avoir visualisé cette offrande au Bouddha. Donc voilà, c'était pour rajouter à ça. Et de se réjouir aussi fait partie justement, aide, c'est aussi une accumulation de mérite, ça va dans le même sens. Se réjouir permet aussi d'avoir les mêmes qualités que les personnes dont on se des qualités desquelles on se réjouit. Donc on peut se réjouir des qualités des Bouddhas, hein, des êtres supérieurs à nous, bien sûr. On peut se réjouir des qualités des Bodhisattvas en souhaitant obtenir les mêmes qualités, être capable de de manifester les offrandes, d'être capable de faire le bien des êtres à grande échelle. Donc, pensez à tous ces êtres qui font des choses bien pour les autres. Il y en a quand même pas mal dans le monde. On peut avoir des exemples précis sous les yeux, des gens qui sont investis de manière solidaire, dans la santé, dans le soin aux autres, dans le secours. Les gens qui interviennent sur place pour secourir les autres, ça demande des qualités de cœur. Voilà. Ce n'est pas que leur profession, s'ils sont ambulanciers ou au SAMU. Ou ça. C'est, voilà, ils interviennent, ils agissent spontanément, alors que nous, ben, on est sur notre coussin, voilà, on évaluise tout ça. Alors, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui dans les zones de guerre, dans les zones de conflit, qui sont brancardiers. Ou, voilà. Et pensez voilà, au Bouddha, mais pas simplement au Bouddha, à des êtres ordinaires aussi, entre guillemets ordinaires, qui sont sur le terrain. Hein. Et pensez à tous ces gens-là. Pendant cette branche-là de la réjouissance, ça élève l'esprit. Hein. On dit ça amène... Ça amène de la joie, hein, la réjouissance, comme le nom l'indique. Donc c'est une pratique très puissante. La Mazopa insistait beaucoup pour qu'on prenne du temps quand on fait la prière à cette branche. Même si on peut réciter les premières branches assez rapidement, mais pendant la réjouissance, il voulait qu'on reste au moins 5 minutes, ou plusieurs minutes en tout cas, à faire jaillir cette réjouissance dans le cœur. Pas simplement dire les mots, je me réjouis de toutes les actions, mais... vraiment la ressentir. On peut penser justement voilà, tout ce que ces bodhisattvas comme Lama Yeshe, comme Lama Zopan ont créé, que ce lieu comme ça n'est pas venu tout seul, qu'il a fallu investir beaucoup d'énergie pour qu'on soit là aujourd'hui à pouvoir être tranquille, à écouter les enseignements. Il a fallu que des lamas viennent d'Inde, il a fallu qu'ils viennent apporter l'enseignement ici. C'est des multiples causes et conditions qui ont permis qu'aujourd'hui, on profite finalement de ce qu'on a en ce moment. Donc, il y a de multiples... On peut bien sûr penser au Dalai Lama, tout ce qu'il a fait pour son peuple, pour son pays, pour ce qu'il continue à faire. Il y a énormément de sujets de réjouissance. Il n'y a pas que des sujets d'actualité qui sont tristes et déprimants. Justement, il faut essayer de prendre essayer de voir le côté positif aussi dans la vie, dans ce qu'on est amené à voir aussi. Il y a multiples des gens qui consacrent leur temps et leur énergie aux autres. Il y en a énormément dans le monde, heureusement. Quoi. Donc voilà. Donc plus on va se réjouir des qualités et du bonheur des autres, hein, quand on voit des gens heureux, il faut se réjouir de leur bonheur aussi. Hein. Voilà. Être envieux ou jaloux, c'est un peu pareil quand même pour moi. C'est un peu pareil. Voilà. Se réjouir de ses propres mérites aussi, hein, parce qu'on a des mérites. Si on a la chance de pouvoir étudier, de ne pas avoir besoin de faire un travail qui nous occupe à plein temps ou complètement et qu'on n'a vraiment plus l'esprit à pratiquer ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'on a quand même certains mérites. Et qu'en méditant comme ça tous les jours, on continue à en accumuler. Dans cette vie, on a une précieuse existence humaine et donc on a des conditions quand même, une situation assez favorable, des circonstances qui nous permettent de pratiquer et faire ça sans le moindre orgueil, hein, juste se réjouir de ce que l'on a à notre disposition. Voilà, se réjouir de ses propres vertus. Donc, c'est hautement bénéfique de faire ça. En plus, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Quelqu'un disait là-bas, on peut faire ça dans son lit. On n'a pas besoin de s'asseoir en posture. Dans son lit, on peut se réjouir, avant de s'endormir, de tout ce que les gens dans le monde, on peut imaginer, ont fait de bien aujourd'hui. La Mazopa était réputée pour faire des dédicaces extrêmement longues, qui pouvaient durer plusieurs... pas une heure, peut-être pas, mais pas loin, parfois. Et très, très, très long, en mettant tout le monde, en incluant plein de choses. Et un lama disait, eh ben, moi, j'ai trouvé la méthode, un moyen hyper intelligent pour me réjouir. Je me réjouis des pratiques de réjouissance de la Mazopa. Qui... Donc voilà, on peut faire se penser au. Malheureusement, la Mazopa n'est plus là pour faire ses pratiques de réjouissance et de dédicace. Donc ensuite, c'est la prière de demeurer, de rester. On demande au Bouddha de rester dans le samsara, de rester, demeurer dans le samsara jusqu'à la fin du samsara. Donc là, on visualise que l'on offre un trône au Bouddha pour qu'il reste là, qu'il siège là, qu'il soit immuable, hein, et qu'il puisse agir donc au bien des êtres. Hein. Donc c'est une supplique, parce que s'il n'y a plus de Bouddha, on ne peut plus atteindre l'éveil, hein. On n'a plus d'enseignement, on n'a pas d'instruction. Donc parallèlement à cette branche de demander au Bouddha de rester, il y a aussi la supplique de tourner la roue du Dharma pour les êtres. Non seulement il faut qu'il reste, mais comme disait le Dalai Lama dans un enseignement que j'ai entendu, c'est bien beau de lui demander qu'il reste, mais s'il ne parle pas, ça ne sert à rien. Il faut aussi qu'il parle. Il faut lui demander de parler, il faut lui demander d'enseigner. Il ne faut pas juste qu'il soit là comme ça à vous regarder. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il faut lui demander Et là, on lui offre non seulement, on lui offre une roue, la roue du Dharma, qui correspond donc à l'enseignement. L'enseignement. Donc ça, c'est le remède, on dit, à l'ignorance. C'est ce qui va éliminer notre ignorance. Le fait qu'un Bouddha enseigne, ça met fin à notre ignorance. Donc c'est notre ignorance étant la perturbation fondamentale, racine. Si on élimine l'ignorance, on élimine aussi toutes les autres perturbations. Donc c'est là, c'est ça qu'il faut... C'est là-dessus qu'il faut taper. Voilà. Donc, demander au Bouddha qu'il enseigne. C'est la supplique, la requête de faire tourner la roue du Dharma. Puisque c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avancer sur la voie. Que dira d'autre ? Ensuite, la dernière branche. Tout ça, donc, c'est accumuler du mérite. Ça permet d'accumuler du mérite. Et encore, la dernière branche, c'est la dédicace, où l'on dédie ses propres mérites et ceux de tous les autres. On les dédie à l'éveil suprême. Alors, cette prière en cette branche, elle est formalisée comme ça par une phrase par branche. Mais vous pouvez la formuler comme vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez à ce moment-là. Ce n'est pas parce que c'est écrit comme ça qu'il faut la réciter comme ça. C'est une pratique que vous pouvez adapter à ce que vous avez envie, à votre sensibilité. Et ça aura encore plus de force, je pense, si vraiment vous la ressentez et vous la vivez avec tout ce qu'elle a, avec tous les points particuliers. Donc cette dédicace, là, c'est pour dédier en fait, tout ce qu'on vient de faire depuis le début de la pratique. On a accumulé du mérite, donc on a engendré une motivation de bodhicitta, on a pris refuge, on a développé toutes ses faces, on a fait des offrandes, on s'est prosterné, on a accumulé du mérite. Hein. On a accumulé l'énergie positive. Et cette énergie positive, on la donne, en fait. On la partage avec tous les êtres, en souhaitant que ce mérite ne se perde jamais. On dit que la dédicace, c'est un moyen de conserver ce mérite en lieu sûr, pour éviter qu'il se perde. Pourquoi il pourrait se perdre ? Parce que les actions négatives qu'on va faire dans la journée pourraient détruire ça, notamment la colère. On dit que la colère, c'est la force la plus destructrice des mérites. Se mettre en colère contre quelqu'un, en plus on ne sait pas qui est cette personne, souvent. On la prend pour un imbécile, mais peut-être c'est un bodhisattva. On ne sait pas. Donc, se mettre en colère contre quelqu'un, c'est dangereux. Surtout si cette personne a des qualités et autres. En plus, ça crée un esprit extrêmement négatif qui est complètement contraire à la bodhicitta. On veut atteindre l'éveil. Si on veut atteindre l'éveil, c'est par compassion, c'est par bodhicitta, c'est pour faire bien les êtres. La colère, c'est à l'opposé de ça. Donc, c'est comme une force négative qui est complètement contraire à ce qu'on veut atteindre. En plus, pour un bodhisattva, Si on a pris des vœux de Bodhisattva, c'est pratiquement impossible de se mettre en colère. Parce que ça va à l'encontre, c'est contre-productif par rapport à ce que vous voulez réaliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ferme dans certaines situations et montrer parfois une attitude un peu courroucée quand il le faut, mais pas avoir cette haine intérieure ou cette aversion profonde. Ils utilisent pratiquement le même mot pour colère, aversion et haine. Ici, c'est, on peut se mettre en colère sans haine, hein, quand c'est nécessaire pour cadrer quelqu'un, quelqu'un qui a fait une bêtise, voilà, et on lui dit, ben, il faut... Si on est trop gentil, ça ne va pas avoir un effet. Au contraire, là, parfois, il faut montrer une attitude un peu ferme et un peu résolue, et élever la voix ou taper sur la table et montrer qu'on n'est pas content, mais qu'à l'intérieur, ça ne change rien, en fait. On a toujours de l'amour et de l'affection pour cette personne. Même si extérieurement, superficiellement, on montre une attitude un peu agressive. Voilà. Ce qui est important, donc, c'est qu'au fond de soi, il n'y ait pas cette agressivité. Donc pour ça, donc on fait la dédicace de tous ces mérites, ces mérites qu'on vient de créer, même si c'est tout frais en plus, on vient juste de les créer, ils sont tout frais, donc on les garde précieusement et on dit que si on fait cette dédicace, les mérites vont rester accumulés, vont rester dans notre coffre-fort là, pendant des milliers de périodes cosmiques, c'est-à-dire pendant toutes nos vies futures, on va pouvoir taper dedans, dans ses mérites. On va pouvoir les utiliser, ça sera notre caisse d'épargne, un peu. Voilà, donc la dédicace, extrêmement importante, cette dédicace, jamais oublier donc, de dédier ses mérites, en fin de journée, hein, aussi, quand la journée est terminée, avant de dormir, voilà, c'est pour ça que l'Amazopa conseille de réciter toute cette prière d'aspiration, cette prière royale, qui est une grande dédicace pour dédier sa journée et créer un très fort potentiel vertueux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces mérites vont créer une énergie positive et on a besoin d'énergie positive. Pourquoi on a des obstacles dans notre... Quand on rencontre des obstacles, c'est le signe qu'on est en train de perdre cette énergie positive, ou qu'elle est à un niveau un peu bas, hein, et qu'il faut recharger les batteries quelque part. Faut recharger. Et donc ces dédicaces permettent justement d'engendrer une énergie positive qui ne s'épuisera pas. Donc les prosternations, c'est un remède à toutes les émotions négatives, on dit. Hein, l'offrande, c'est un remède à l'avarice. La confession, c'est aussi un remède à tout le karma négatif, hein, qui purifie tout le karma négatif, donc toutes les perturbations mentales. La réjouissance est un remède à la jalousie. La requête d'un enseignement, c'est un remède à l'abandon du dharma. On ne sait jamais. On pourrait abandonner le dharma. On pourrait dire, ouais, bah, finalement, le dharma, ça ne m'intéresse plus. Je passe à autre chose. Voilà. L'enseignement du Bouddha, c'est rien. C'est rien du tout. Donc, on pourrait créer ainsi un karma négatif, donc en critiquant d'autres doctrines, par exemple, en mettant la sienne sur un piédestal. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la demander des enseignements. Ça évite justement cette création de karma négatif en rejetant sa foi et celle des autres aussi. Donc la supplique de rester, c'est un remède donc au manque de respect pour les êtres saints, pour les bodhisattvas, pour ceux qui enseignent le dharma, et dédier les mérites. Donc c'est un remède contre la colère et un remède aussi contre le karma négatif que la colère a pu créer. On dit que chacune de ces branches de la prière produit un résultat spécifique. Chacune est une cause. Hein. Donc, c'est un remède et c'est aussi une cause. Donc, les prosternations, quel effet ça va produire? Ça permet d'avoir la protubérance d'un Bouddha. Vous savez, le Bouddha a cette protubérance au sommet de sa tête qui n'est pas un chignon, en fait. Hein. On pourrait croire que c'est un chignon ou une bosse. Mais en fait, c'est une protubérance C'est même pas de la chair, en fait. C'est de la lumière. Hein, on dit. Et on dit que voir la protubérance d'un Bouddha, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement bénéfique. Ce n'est pas donné à tous les êtres de pouvoir percevoir la protubérance d'un Bouddha, parce que justement, elle est faite de lumière. Ce n'est pas une bosse de chair, hein, autrement dit. Donc, la branche des prosternations, comme on incline sa tête, qu'on touche le sol avec son front, hein, et bien, ça crée la cause pour avoir cette protubérance crânienne d'un Bouddha. Et d'autres marques aussi d'un Bouddha, je ne me souviens plus lesquelles, toutes ces marques qui témoignent en fait de ces qualités. L'offrande, c'est une cause pour être riche, dans cette vie et dans les vies futures. L'offrande apporte de la richesse. L'offrande du mandala, oui, aussi, apporte de la richesse, effectivement, oui. Donc, toutes les offrandes, tout ce que l'on offre amène de la richesse. C'est le contraire de l'avarice. L'avarice est source de pauvreté. Et nous, dans notre ignorance, on pense que c'est le contraire. C'est, en étant avare, on a l'impression d'être riche. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'en étant avare, on est pauvre, puisqu'on n'utilise pas sa richesse. Donc, c'est comme si on ne l'avait pas. Donc, c'est comme si on était pauvre, en fait. Quelqu'un d'avare, c'est que c'est, même s'il a des millions à la banque, comme il ne les utilise pas parce qu'il ne veut pas les donner ni pour les autres ni pour lui, c'est comme s'il ne les avait pas. Alors quelqu'un de généreux est forcément, amène de la richesse. C'est une énergie qui va amener de la richesse. Le fait de donner ses biens crée justement, apporte une richesse, apporte de la richesse. Ensuite, la confession. La richesse, c'est important, la richesse, parce que ça permet de faire des offrandes. Ça permet aussi de pouvoir pratiquer le dharma, en faisant des offrandes, mais en n'ayant pas besoin de travailler, par exemple. Si on est suffisamment riche, ben voilà, pourquoi aller travailler ? On n'a pas besoin. Et donc, on peut passer son temps à pratiquer, à voyager, à aller dans des lieux, faire des pèlerinages, voilà, tout ça. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc, voilà. Des offrandes pour ça, et surtout pour aider les autres, ceux qui en ont besoin. Donc la confession, les quatre forces de la confession, hein, comme on a vu, permet de recevoir les quatre corps d'un Bouddha. Parce que cette confession élimine tous les obstacles à l'éveil. Les obstacles à l'éveil. J'en suis à expliquer les sept branches. J'y suis toujours, ouais. Ouais. Parce que c'est important de voir quand on les fait. Après, on comprend mieux pourquoi on les fait. C'est pour ça que je les explique. Réjouissance, donc c'est la cause pour avoir confession, donc c'est pour avoir les quatre corps d'un Bouddha. La confession, c'est un remède à toutes les perturbations mentales, donc qui créent du karma négatif. Donc c'est un remède au karma négatif. La confession élimine les deux voiles, donc pour les voiles émotionnels et les voiles cognitifs qui empêchent donc d'atteindre l'éveil, et donc permet d'obtenir. Si on élimine ces deux formes de voile, on obtient donc les corps d'un Bouddha. La réjouissance, c'est la cause pour obtenir une belle apparence physique, pour être beau. Et pourquoi ? Parce qu'on se réjouit de ce qui est beau, en fait. On se réjouit des qualités. Donc, qualité, c'est ce qui est beau. Et que ça a comme effet donc, d'avoir dans la vie future, ou même dans cette vie déjà, une belle apparence physique, d'être quelqu'un d'agréable à. Et c'est important, justement, dans la pratique, ça permet d'avoir plus facilement des disciples. Quelqu'un qui est agréable à regarder, normalement, plus facile pour cette personne d'attirer des disciples que quelqu'un qui a une apparence physique qui est plus repoussante, disons. Demander des enseignements au Bouddha, ça permet d'avoir la parole d'un Bouddha dans les vies futures. Ça crée la cause pour avoir la sublime parole d'un Bouddha. de pouvoir exprimer le Dharma. C'est que la parole d'un Bouddha, on l'a vu ça dans le refuge, un Bouddha peut s'exprimer d'un seul mot, il peut être compris dans toutes les langues des êtres. Et la voix d'un Bouddha, et on dit que c'est comme le rugissement d'un lion, il suffit qu'il prononce une phrase, par exemple, pour qu'aussitôt ça impacte l'esprit des êtres. Supplier les Bouddhas de rester, c'est la cause de quoi, à votre avis ? Hein ? De retrouver un Bouddha ? Ouais, pourquoi pas. De retrouver les Bouddhas ? Oui, je suis d'accord. Cause de longue vie, c'est ça. C'est une cause de longue vie. Et la dédicace permet d'obtenir toutes les qualités d'un Bouddha, toute sa connaissance et ses qualités. Donc très importante, cette pratique de cette branche, elle est très courte. On peut la faire en une minute. En une minute, vous pouvez vous prosterner, faire des offrandes, vous réjouir. Mentalement, je m'entends, par des 7 petites pensées comme ça qui s'élèvent successivement dans votre esprit. Vous pouvez y mettre des mots, si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des mots. Si c'est devenu vraiment une habitude, vous pouvez simplement avoir ces 7 pensées. Et c'est très court. Et donc, très utile donc, pour accumuler du mérite et purifier la négativité. Et l'autre après, donc dans la même branche, pratique préparatoire, cinquième, donc, c'est l'offrande du mandala. L'offrande du mandala qui est à la suite. Donc c'est dit, bien, la pratique de l'offrande du mandala est l'un des meilleurs moyens pour accumuler des mérites d'une ampleur inconcevable en un temps très court. Il suffit de faire le mudra avec le Mont Meru au centre, de visualiser les 4 continents et les richesses et de penser qu'avec ce geste, vous offrez au Bouddha tout ce que vous avez de beau en vous, tous vos mérites, toutes vos qualités, toutes vos richesses, non seulement vos richesses, mais toutes les richesses des univers, tout ce qu'il y a de plus beau écologiquement parlant dans les univers, tout ce que vous pouvez imaginer de beau, de splendide, vous l'offrez au Bouddha et en récitant la prière que l'on adresse habituellement, l'offrande de mandala court, par exemple à la page 179. Cette terre, ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du Mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Voilà. Et vous faites Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Vous offrez ça. C'est pour ça qu'on fait cette offrande au début de l'enseignement, pour demander au Bouddha de nous enseigner le Dharma pour qu'on puisse atteindre l'éveil. Si vous ne faites pas le mudra, ce n'est pas grave, c'est pas ça le plus important. C'est encore une fois pour joindre le corps, l'esprit et la parole qu'on fait ça, qu'on fait ce mudra. Vous joignez les 2 annulaires au centre qui représentent les monts Meru. Ensuite, le pouce rejoint l'auriculaire de l'autre main. Le pouce d'une main rejoint l'auriculaire de l'autre main. Le pouce de la main gauche, par exemple, rejoint l'auriculaire de la main droite. Pareil pour l'index et le majeur. L'index de la main droite rejoint le majeur de la main gauche. L'index de la main gauche rejoint le majeur de la main droite. Et voilà. Et vous avez votre 4 continents ici, avec le Mont Meru au centre. Voilà. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça va très vite. Il faut s'y entraîner un petit peu. Au début, on galère un peu à mettre les doigts dans le bon ordre. Pouce et auriculaire, index et majeur. Pouce et auriculaire vers vous, index et majeur vers l'extérieur. Il y a le dessin dans le livret doré, bravo, merci. Heureusement qu'il y en a qui lisent les livres. pas. Ouais. Et puis plus l'un contre l'autre. Les deux. Voilà. Les deux annulaires. Voilà, vous pouvez vous montrer. Donc vous pouvez apprendre cette strophe en tibétain, parce qu'on la récite souvent dans les enseignements en tibétain, en visualisant. Mais le plus important, c'est de visualiser. Donc pensez que vous offrez tout l'univers, hein, tout et son contenu, bien sûr. Donc l'offrande en sept points, le mont Meru qui est le centre de l'univers, les quatre continents aux quatre directions cardinales, donc qui entourent le mont Meru. Et donc on visualise que ces éléments se transforment en terre pure, remplie de choses précieuses et délicieuses que l'on offre au Bouddha. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire qu'on considère que ce qu'on offre, en fait, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Pour recevoir l'enseignement du Bouddha, on est prêt à offrir ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est bien, ça permet à ce moment-là de regarder son esprit encore. Il faut toujours regarder son esprit, comme on disait hier. À quoi je pense quand je fais ça? Je pense à rien. Mais évitez de penser à rien, mais pensez plutôt à ce que ça signifie pour vous. Qu'est-ce que vous donneriez pour atteindre l'éveil, hein? C'est l'intention. Qu'est-ce que vous donneriez? Qu'est-ce que je serais prêt à donner pour que le Bouddha, qui possède l'éveil, me donne ce qu'il possède? L'offrande de mandala, c'est « S'il vous plaît, Bouddha, donnez-moi ce que vous possédez, c'est-à-dire l'éveil. Donnez-le-moi. » Et en échange, ben, c'est un échange. Vous me donnez quelque chose, mais moi, je vous donne aussi quelque chose. Donc, je vous donne tout ce qu'il y a de plus beau pour ça, tout ce qu'il y a de plus riche de tout dans l'univers pour obtenir cette chose incomparable qu'est l'éveil. Les deux. On peut lui donner ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu peux donner toute ta famille, tes enfants, ton conjoint, je ne sais pas, visualiser tous tes objets d'attachement, justement, tu t'en défais, parce que c'est ça qui t'empêche d'atteindre l'éveil. C'est nos objets d'attachement. Parce que ce n'est pas eux qui empêchent d'atteindre l'éveil. Attention, je m'exprime mal. C'est l'attachement que l'on a pour eux, hein, qui est cause d'obstacles. Ce n'est pas eux, ils sont pour rien. Eux, c'est des êtres qui veulent atteindre l'éveil, qui sont comme nous, emprisonnés dans notre truc. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est notre attachement pour eux. Donc on visualise que tout l'attachement, toutes ces projections qu'on a sur les êtres, les ennemis, les amis, tout ce qu'on a, tout ce qui suscite de la colère, tout ça, on s'en débarrasse complètement. Hein. On offre tout ce qui est possible d'offrir, hein, à un Bouddha. Donc c'est des choses qu'on ne possède pas, mais c'est aussi des choses qu'on possède. Hein. Après, c'est quelque chose que vous visualisez. Hein. Si vous êtes très attaché à votre maison, à votre château, ici, vous offrez le château au Bouddha. Et hop, ça ne nous appartient pas, mais bon, ça ne fait rien. C'est des objets de valeur. Hein, parce qu'on donne de la valeur à ce qu'on veut offrir. Donc c'est pour ça, pour les parfums, les fleurs, tout ça, c'est des choses qui sont belles et qui sont attrayantes. Et dans la prière suivante, je ne sais pas si elle y est dans les... Elle n'y est pas, là. Non, elle n'y est pas. Il y a une autre prière qu'on dit le matin, quand on fait les prières au début des enseignements. Hein. On dit « Sans le moindre regret, j'offre les objets de mon attachement. Hein. » J'offre les objets de mon attachement, de mon aversion, de mon ignorance. Ça peut paraître bizarre. On offre les objets de son aversion. C'est quoi cette histoire? Mais non, parce que ces objets d'aversion, c'est pas des objets d'aversion. C'est vous qui mettez de l'aversion sur ces objets. Ouais. C'est pas des objets d'aversion. C'est pas eux-mêmes qui sont des objets. Les objets, ils sont neutres. Hein. Mais nous, on y met de l'aversion. On y met de l'attachement. On y met de la jalousie. On y met plein de trucs. Et ça, on les vide en fait de ces perturbations mentales et on les offre pures. Donc sans le moindre regret, on dit sans le moindre regret, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion, de mon ignorance, le trois poisons, amis, ennemis, inconnus, mon corps, on offre son corps, ce qui est le plus précieux pour nous. On n'a rien de plus précieux que le corps, finalement, si on regarde bien. Il n'y a rien de plus précieux pour nous. Et pour nous, le corps, c'est notre possession. On possède le corps. Hein. On s'identifie à son corps. On est complètement identifié à notre corps. Ce qui est une erreur, hein, bien sûr, au niveau ultime. On n'est pas le corps, hein, on est bien d'accord. Mais on s'identifie à ça. Donc on offre ce qui est notre corps et toutes les richesses dont je jouis. Hein. Qu'elles vous appartiennent ou qu'elles ne vous appartiennent pas, peu importe. Votre travail, votre maison, votre, voilà, tout, votre pays... Hein. Les ayant pleinement acceptés, veuillez me bénir par la libération spontanée des trois poisons. Vous offrez le mandala et vous êtes libéré des trois poisons. Idam, Guru, Ratna, Mandala, Kamniryatayami veut dire donc, ainsi donc, maître, je vous offre ce mandala avec tous ces éléments précieux, Ratna, et je l'offre. Votre jouissance. Voilà. Et ça, c'est pour obtenir. Ça veut dire que, voilà tout ce que je vous donne pour obtenir les réalisations les plus précieuses. Hein, et éliminer tous les obstacles qui empêchent ces réalisations. Donc tout ça, toutes ces prières qu'on fait là, c'est pas la méditation vraiment. C'est une méditation, oui, mais c'est plutôt axé sur la purification. C'est une méditation de purification et d'accumulation de mérite. Et cet après-midi, on va voir la méditation principale. Vous êtes là lundi pour qu'on continue. J'aurais pas le temps de. Vous offrez votre patron au Bouddha. On va dédier cette énergie positive que l'on a créée ensemble, donc en faisant ces pratiques ce matin, en essayant de les faire, avec toutes nos limitations, mais essayant quand même de la manière la plus vertueuse possible. Donc on a créé ainsi un potentiel positif, potentiel vertueux, qui est donc ce potentiel vertueux, cette énergie positive, on va l'intégrer à notre courant de conscience en l'offrant donc au Bouddha pour que lui qui sait comment en faire profiter tous les êtres le fasse pour nous. Et donc, on fait cette offrande de mandala pour le remercier. Cette terre, ouinte de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je peux dire la suite, si vous voulez. Je prends refuge en... Attendez, je vais partager avec Zoom, parce qu'ils ne l'ont pas. Voilà, on l'a dit ensemble. Je prends refuge en le maître et les trois joyaux précieux, rares et sublimes. Veuillez bénir mon continuum mental. Veuillez nous bénir, moi-même et tous les êtres, afin que nous mettions fin immédiatement à toutes les conceptions erronées, depuis la dévotion incorrecte au maître jusqu'à la vue dualiste subtile de l'apparence blanche, de l'accroissement rouge, de l'approche obtention noire. Veuillez nous bénir, moi-même et tous les êtres, afin que nous parachevions immédiatement toutes les réalisations correctes, depuis la dévotion au maître jusqu'à l'unification au-delà de l'apprentissage. Veuillez apaiser immédiatement tous les obstacles intérieurs et extérieurs. Et là, on se concentre avant de dire la phrase, on se concentre vraiment ce qu'on est en train de faire, on y pense, on regarde son esprit, on développe cette pensée d'offrande et de richesse que l'on offre. Idam guru ratna mandala kamniryataya mi. Et maintenant, on va offrir le repas. Ça, c'est les trois dernières consciences subtiles juste avant de mourir. On va offrir le repas qu'on va prendre. C'est page combien dans le livret parce qu'on a pas dans votre livret, l'offrande de nourriture. Page 207. C'est ça? On va y aller. Page 207. On va dire en tibétain. Lama Sangye Lama Chö Deshin Lama Ngendun Te Kungi Jepo Lama Te Lama Nam La Chö Pabu. Bon, on visualise dans un vaste réceptacle orné de pierres précieuses la nourriture comme du nectar de sagesse, de félicité, et on en fait l'offrande à un petit Bouddha que l'on visualise au chakra de notre cœur. On récite Om Aum donc, trois fois pour consacrer la nourriture ou la boisson, et on l'offre en récitant donc les prières suivantes. On va réciter la suivante. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objet de refuge, je fais l'offrande. Donc avant de prendre votre première bouchée de nourriture, pensez à faire Om A Om sur la nourriture et à vous pouvez ensuite la digérer en pensant que vous l'avez offerte au Bouddha. Et que ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas des carottes que vous lui offrez, mais que c'est du nectar. Je ne sais pas qu'il n'y a pas des carottes à midi. J'aime pas les carottes. Il faut offrir ce qu'on aime. Bon appétit. On se revoit tout à l'heure à 15h. 15h. Alors, pour ceux qui sont ici en présentiel, il y a un petit groupe de discussion tout à l'heure. Donc, on a marqué 14h15, mais venez plutôt à 14h, le temps que qu'on se mette en groupe, qu'on se répartisse, que je vous dise sur quoi discuter. Comme ça, vous n'avez qu'une demi-heure, donc ça va très vite. Donc, on se retrouve à 14h ici, jusqu'à 14h45.